Chapitre 4. Si les déceptions abondent souvent pour de nouveaux mariés, aucune ne troubla M. et Mme d'Auzac. Ils s'aimaient tendrement et les défauts aperçus disparaissaient dans une tendresse mutuelle. Les changements d'humeur étaient rares chez Frédéric, qui apportait dans sa nouvelle existence le bon caractère, le cœur et l'esprit vif qui avaient été le bonheur de ses parents. Elle jouissait comme une enfant de sa fortune. À une amie très religieuse qui lui prêchait la mesure dans la jouissance, elle répondait joyeusement « Puisque le sort me veut riche, il est rationnel d'en jouir, même sans grande mesure. Resté pauvre, j'aurais agi en conséquence, donc pourquoi des scrupules? D'ailleurs, je réjouis ainsi mon mari. » En rentrant chez lui, Fabien était sûr de trouver sa jeune femme souriante, élégante, ayant tout préparé selon les habitudes et les goûts qu'elle lui connaissait. Frédéric n'aimait pas seulement son mari, elle l'admirait. Elle admirait son élan dans le travail, sa persistance, son ambition, qu'elle savait être le grand stimulant des énergies. Du reste, dans les premiers temps de leur union, il l'amenait à croire ce qu'il voulait. Toutefois, peu à peu, elle en vint à souhaiter pour lui moins d'ardeur au gain, et lorsque devenue en 3 ans mère de 2 fils, elle pensait à l'avenir de ses enfants, elle le concevait sous un autre angle que celui prôné par Fabien. « J'aimerais mieux les voir moins riches, » disait-elle. « Il faut qu'ils comptent sur leur travail. »« Oui, Frédéric, nous saurons les diriger dans ce sens. Mais puis-je limiter ou entraver moi-même le succès de mes efforts? Crois bien que nos enfants ne nous reprocheront pas leur fortune. »« Mais si la fortune se dérobait ?» « Allons donc, me crois-tu inintelligent au point d'aller trop loin ?»« Il ne s'agit pas d'inintelligence, mais d'une audace exagérée. »« Sans audace, pas de réussite. » Le ton affirmatif de son mari l'a rassurée, mais parfois son père donnait corps à ses craintes, généralement assez vagues. « Fabien s'entend si bien aux affaires » répondait-elle à de timides observations. Avec son bon sens et sa prudence, Laura voyait avec ennui que le luxe grandissait chez le jeune ménage. « Je vous trouve inquiétant, » dit-il un jour plus nettement à sa fille. « Vos dépenses augmentent de jour en jour. »« Et nos revenus également, c'est délicieux. »« Délicieux, sans doute, mais la raison, Frédéric, la prudence. » »« Fabien est en même temps audacieux et prudent. » Si aimable quand il a terminé une bonne affaire. Immédiatement, je trouve sur ma table un objet que j'avais admiré la veille avec lui. Quel mari charmant! Sans doute, mais je pense aux 2 petits. Ils ont un nid douillet, c'est bien, mais il faut préparer leur avenir. L'avenir est assuré, et puis je veux que mes fils travaillent. Ton mari peut connaître des mécomptes. Faites des économies. « Mieux que des économies, puisque la fortune augmente. Fabien a fait et fera d'excellents placements. »« Vous dépensez trop, » s'obstina à répéter l'oral. « Votre maison est montée sur un pied, plusieurs domestiques, et le tout à l'avenant. Toi qui travaillais, es rentré ici, aider ta mère dans le ménage. »« La roue a tourné. Vous ne voudriez plus me voir le balai à la main ?» « Non, ne me fais pas dire une sottise. Je voudrais simplement que la roue ne tourne pas trop vite. Quand je compare avec notre petit intérieur, comment t'arranges-tu d'une vie si différente ?»« Oh, on s'y habitue très vite !» répondit-elle en riant de tout son cœur. Néanmoins, bien qu'elle fût entraînée par ses goûts, non moins que par la volonté de son mari qui voulait briller et considérer que les apparences servent toujours, elle acceptait les observations de son père et en parlait à Fabien. Il souriait en l'écoutant. « Que voilà bien le petit rentier qui a vécu sou à sou. Comment veux-tu que ton brave homme de père nous comprenne? Tu l'écoutes parce que toi-même, tu as parfois de l'inquiétude. Mais ne te laisse pas influencer par des idées sans fondement. Crois-moi, Monsieur Laural n'y entend rien. Il aime l'économie et redoute les spéculations. » Les miennes sont sûres. » Très rassurée quand Fabien parlait avec autorité, elle s'en alla toute joyeuse rue Cassini. Après tout, que savait-elle sur les spéculations? À peine comprenait-elle les explications que lui donnait son mari, et son père devait être à peu près dans la même ignorance. Elle se disait quelquefois qu'il eût été préférable de ne jamais discuter avec lui la question recettes et dépenses, mais elle avait vécu avec ses parents dans une grande intimité, partagé leur esprit bas de laine et conservé avec eux sa nature expansive et confiante. Du reste, elle n'abordait jamais le sujet sans y être sollicitée. En pénétrant ce jour-là dans le logis un peu sombre et propre à souhait, elle s'étonnait d'avoir été heureuse dans un espace si restreint, si modeste. L'affection de ses parents combattait cette impression, mélangée de quelques remords. « Tu as toujours ton air joyeux, » lui dit sa mère. « Les soucis de maîtresse de maison glissent sur toi. » « Les soucis dans une si belle situation, où sont-ils? Les petites difficultés d'une tenue de maison? Qu'est-ce que cela? Je suis une femme heureuse. » « Tu l'étais dans notre vie médiocre, » affirma son père en l'embrassant. « Un rayon de soleil entrait avec toi. Les enfants vont bien ?»« Très bien, ils sont si gentils. Nous voudrions les voir sans cesse, surtout longuement, non en courant. » « Alors, pourquoi ne pas venir chez moi plus souvent ?»« Par raison, » répondirent-ils ensemble. « Il faut comprendre ton mari, Frédéric. » « Je ne comprends pas mon mari, cher père, » dit-elle en riant. « Comment cela ?»« En désirant le voir souvent chez toi, tu n'entres pas dans ses idées. Son bonhomme de beau-père le gênerait s'il s'imposait. » La réponse toucha Frédéric et la fit rougir. Le jugement de son père élucidait une pensée qu'elle se reprochait, car malgré son amour pour Fabien, elle réprouvait une vanité qu'elle jugeait puérile et en désaccord avec la valeur de l'homme. Une vanité non ostensible devant les étrangers paraît que c'est même du défaut. Sous de l'aisance très naturelle, Fabien cachait sa vanité ou la travestissait soigneusement, mais sa femme comprenait bien qu'il eût souffert s'il avait dû présenter à ses connaissances brillantes un brave homme qui n'entendait rien aux manières mondaines. Laurent le savait, aussi avec sa femme, toute raisonnable comme lui, il n'allait chez son gendre que rarement et dans les moments où il croyait ne rencontrer personne. Excellente résolution dont Fabien le remerciait implicitement par une amabilité sans nuage. « Mon mari est toujours aimable avec vous, » reprit Frédéric. Oui, ma chérie, et nous l'aimons beaucoup, mais notre éducation ne s'allie pas avec une société que nous n'avons jamais fréquentée. Cette société est la mienne maintenant, et j'y fais bonne figure. Ce n'est pas la même chose. Une femme fine, jeune, aimable, s'adapte facilement. Restons sur notre terrain tout en appréciant nos qualités réciproques. Nous verrons les enfants aux heures de solitude et quand tu nous les amèneras. L'air attristé de sa fille le fit sourire. Allons, allons, reprends ton joyeux visage. Tu es heureuse, c'est notre joie, ne la troublons pas inutilement. Vous êtes la sagesse même, mais je connais chose meilleure que la sagesse. Quoi donc ? Elle embrassa son père à l'étouffée, ne répondit pas et s'en alla d'un pas vif. Je crains que tu ne l'aies contrariée, dit Madame Laurel. « N'importe, elle est raisonnable et comprendra que, grâce à ma franchise, les choses sont à présent plus nettes. » L'ombre qui effleurait Frédéric se dissipa en revoyant son mari. Il l'attendait impatiemment. « Que tu as été longtemps sorti, Frédéric, et par extraordinaire, j'avais des heures libres. »« J'étais chez mes parents. Quelle différence !» dit-elle en regardant autour d'elle. « Elle me frappe étonnamment aujourd'hui. » Tout est si joli ici. Je pense quelquefois à cette différence. Pourquoi monsieur et madame Laurel, ne se logeraient-ils pas autrement? Je suis prête à les aider. Ne parle pas de cela, mon père, dit-elle effrayée. Il ne te pardonnerait pas. Ah ah, il est donc vaniteux à sa manière. Je ne l'en blâme pas. Vaniteux, non, mais fier. Mes parents se sont toujours suffis à eux-mêmes et n'admettrait pas la charité. Où verrait-il de la charité dans l'aide d'un gendre? Tu les aidais, toi, en travaillant? Je ne les aidais pas, mais j'évitais d'être une charge. À présent, seuls, ils peuvent vivre tranquillement. bien peu confortablement dans un pareil logis. Fabien n'insista pas. Après tout, que lui importait l'habitation de ces gens discrets que personne parmi ses relations ne verrait chez lui ? Je redouterais, chérie, de les contrarier. Je ne suis pas entrée dans leur vie pour les ennuyer, mais pour leur apporter de la joie en te rendant heureuse. Fabien, cher Fabien, que tu es bon et comme je t'aime ! Elle avait depuis quelque temps une question difficile à poser et profita d'une heure où elle jouissait en paix de son mari, habituellement pressé. « Laisse-moi te poser une question. Tu la jugeras intempestive, mais j'espère que tu y répondras sans te fâcher. » Prudente exorde. Voyons la question. D'où vient ta sympathie pour M. Gauvier ? Comment ? Mais elle vient de sa bonne camaraderie, de son entente des affaires. Nous nous aidons mutuellement. J'aime sa décision, la netteté de son esprit. Que lui reproches-tu ? Rien de précis, si ce n'est mon antipathie pour lui. Je le crois dangereux. Enfant candide, juge-t-on un homme sur une impression irraisonnée ? Est-ce tellement irraisonné ? Dans chacune de ses conversations, je constate qu'il est insatiable et je crois qu'il t'entraîne. Avons-nous donc besoin d'une telle fortune ? Je ne me laisse pas entraîner si facilement. Tu viens de le dire, rien de précis à lui reprocher. Son insatiabilité n'est qu'une supposition. Ton antipathie pour lui, je connais d'honnêtes gens qui me sont antipathiques. Dois-je les suspecter ? Au ton de sa réponse, elle comprit qu'insister serait une maladresse. Le lendemain, elle eut l'heureuse surprise de recevoir M. d'Hautefort. Souvent, elle pensait à la demande d'autrefois, sans oser parler de Gerbert à son mari. Elle avait remarqué que le rappel de cette ancienne amitié agissait désagréablement sur l'humeur de Fabien. « Quel plaisir de vous voir » s'écria-t-elle en tendant la main à M. d'Hautefort. « Voici un bien aimable accueil, » dit-il joyeusement. « Je passe à Paris et tenais à vous rencontrer. »« Vous passez seulement ?» Quelques jours, pour retourner ensuite dans mon cher Beaulieu. Avec vos goûts intellectuels, je vous aurais cru plus épris de Paris. À Beaulieu et à Nice, je ne manque ni de relations, ni même d'amis véritables. Puis je travaille sérieusement ma peinture. Si mes aquarelles ne ressemblent pas à des chefs-d'œuvre, elles suffisent à me distraire. Ici aussi, vous avez des amis et des sources intellectuelles qu'on ne trouve nulle part ailleurs. « Êtes-vous devenue une intellectuelle ? » demanda-t-il en souriant. « Non, je crois, mais je lis quand j'ai le temps. Je suis avec amour le mouvement théâtral. Vous connaissez mes goûts, ils n'ont pas changé, au contraire. » Frédéric, poursuivi quelquefois par le regret encore vif d'avoir été pour Gerbert une cause de chagrin, fut satisfaite de son expression calme. En outre, il lui parut qu'il marchait moins péniblement. De son côté, M. d'Hautefort la trouvait embellie et affinée dans son élégance de bon aloi, toujours simple, aimable, les mouvements naturels et aucune timidité. « Vous êtes heureuse, madame. Je le savais par Madame de Paulin et je suis enchantée de le constater par mes propres yeux. »« Bien heureuse. Et si vous voyez mes fils, l'un a 2 ans, l'autre 6 mois. »« Et ils sont incomparables, je m'en doute bien. » Et Fabien, surchargé de travail, naturellement ? Trop, il y est poussé par ses goûts, son courage, aussi par ses relations avec tant d'hommes d'affaires. Connaissez-vous Monsieur Gauvier ? Gauvier ? Qui est-ce donc ? Je connais ce nom, il me semble. Un homme dans les finances, le grand commerce, l'industrie, je ne sais quoi. Je ne l'aime pas. Fabien travaille beaucoup avec lui. Je me rappelle vaguement. Monsieur Gauvier n'a-t-il pas la réputation d'être un grand brasseur d'affaires ? Heureux d'ailleurs dans ses entreprises. Que dit-on de lui ? Rien, mais il est passionné par le gain et influence Fabien, j'en suis certaine. Ne serait-il pas plus sage de s'arrêter ? Je crois Fabien très prudent, répondit négligemment Monsieur d'Hautefort. Et les conseils de Monsieur Gauvier, homme expérimenté, sont certainement excellents. « Je le déteste, je le crois dangereux et l'ai dit à Fabien qui se moque de mes craintes. Vous seriez bon de vous procurer des renseignements sur Gauvier et de me les communiquer. Non, je ne dois pas me mêler des affaires de votre mari, même indirectement. Ayez confiance en lui et permettez une remontrance. Ne vous montez pas la tête comme une enfant. Une enfant, jolie manière de me traiter, mais je vous pardonne en faveur de l'intention. Ils causèrent longtemps en vieux amis, charmés de se revoir. Irène de Paulin m'a beaucoup parlé de vous, dit Gerbert. Irène de Paulin, je l'aime tant. Figurez-vous que, malgré de grandes différences entre nous, je lui ai tout de suite inspiré beaucoup de sympathie lorsque mon mari m'a présenté à sa tante. Comprenez-vous cela ? Mais oui, très bien. Alors nous nous sommes vus souvent, et je sais qu'elle a pour moi une amitié dont je suis fière. Malheureusement, elle parle de passer plusieurs années à Rome, et je ne la verrai plus. Le saviez-vous ? Oui, son mari désire commencer un travail qui nécessitera de longues recherches. Gerbert se leva et promit de venir déjeuner le lendemain, mais le matin, il envoya un télégramme pour se désister et partit sans avoir revu M. Dauzac. « Mon court séjour à Paris, écrivit-il à Mme de Paulin, me laisse sous une impression mélancolique, impression qui eût été différente si je vous avais revu, et grande a été ma déception en apprenant que vous n'étiez pas à Paris. » J'ai appris aussi que l'assouplissement de certains sentiments est bien préférable à leur résurrection, fût-elle momentanée. Je vais donc vivre de plus en plus dans mes solitudes, en face d'une mer bleue. Tout s'adoucit, c'est un lieu commun. Et puis, j'ai été bien content de la retrouver si heureuse. Pour moi, je commence à croire que la nature est le meilleur des adoucissements. Vous ne vous doutez pas des beautés de ce pays privilégié. Les couchers de soleil sont merveilleux. On vous l'a dit bien des fois et vous regretterez de ne pas les connaître. Une chambre agréable vous attend toujours chez moi. Le calme n'est rompu que par les nombreux autocars et les plus nombreuses automobiles, mais le tout se passe assez loin de moi pour ne pas troubler la méditation et le travail. Aux méditations dont je vous ferai part, vous ajouteriez vos fines pensées, l'amitié d'un cœur aimant qui sait consoler. Il s'arrêta pour réfléchir que la consolation était illusion vaine et que les sages comme lui ont peu de sagesse, car l'amitié ne pouvait atténuer ses regrets.